Alors, chacun pour vous-même, vous pouvez compter combien il y a d'écrans dans la maison. On compte tous les écrans, les smartphones, les tablettes, les écrans de télévision, les ordinateurs.
12 à peu près.
Pour une famille de ?
De 4 personnes.
6 écrans pour une famille de 5 personnes.
10 écrans pour une famille de 4 personnes.
D'accord.
Pendant la période de confinement que nous avons traversée, ils ont été des outils de travail, des médiateurs d'enseignement, des liens avec nos proches, voire des intermédiaires de rencontres. La télé s'était installée dans les foyers au début des années 60. Il a fallu 40 ans de plus pour qu'un autre écran, celui de l'ordinateur, pénètre dans notre intimité. Mais depuis, tout s'est accéléré et on en trouve désormais plusieurs par foyer. L'écran est devenu un compagnon si familier qu'il est même impossible de savoir combien il y en a précisément dans le pays. Et ces colocataires, qui ont progressivement tapé l'incruste, prennent aussi une place considérable dans la vie de nos enfants, à qui ils servent de prof, on l'a vu dans la période récente, de doudou et même de babysitter.
Est-ce qu'elle regardait avant la crèche votre téléphone ?
Non.
Et maintenant, à 2 ans et demi, est-ce qu'elle regarde votre téléphone ?
Oui.
Combien de temps à peu près par jour ?
Une demi-heure.
Tous les jours ?
Une demi-heure, une heure, ça varie.
Et quand vous l'arrêtez, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle fait des caprices.
À Taïwan, les parents qui laissent leurs enfants trop longtemps devant un écran, selon leur âge, encourent une amende d'environ 1400 euros. Chez nous, l'étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, l'étude Esteban, menée par Santé publique France, indiquait en 2015 qu'en moyenne, un jeune Français passait chaque jour 4 heures et 11 minutes devant un écran. Inutile de préciser que le confinement de ce printemps n'a rien dû arranger. Les écrans ont même fait une entrée très officielle à l'école. En 2015, François Hollande, président, présentait son plan pour le numérique à l'école.
Le numérique, c'est devenu aussi notre langue, notre mode de communication.
À la rentrée 2016, les premières tablettes Hollande arrivaient donc en classe. Depuis, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, créé par Jean-Michel Blanquer, a un peu tempéré les ardeurs, en adressant une mise en garde aux enseignants sur l'utilisation de ces écrans. Mais certains pédagogues, on va le voir, restent séduits par leur usage.
L'écran, quand il est seul et de façon passive, oui, il y a un danger. Mais lorsqu'il est toujours accompagné, et c'est le cas de l'école, c'est plutôt bénéfique.
Ces écrans qui capturent nos enfants, c'est un reportage de Géraldine Allot avec une prise de son de Fabien Gosset, un reportage déjà diffusé le 12 janvier dernier.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Kathleen ?
Bonjour.
Katharina.
Bonjour.
Kathleen, c'est ma fille.
Katharina.
Katharina, ouais.
Je m'appelle Katharina, j'ai 31 ans, j'ai 3 enfants. Kevin de 13 ans, Kathleen de 9 ans et Jade 12 mois.
Et vous êtes d'origine brésilienne ?
Brésilienne, oui.
Et vous vivez en France depuis ?
Depuis 14 ans, ça fait 14 ans que je suis là.
Là, on est chez vous au pavillon Sous-Bois, près de Paris. Mmh. On est dans votre salon.
Oui.
Donc on voit un grand écran de télévision, un ordinateur à côté.
Et, ouais,
et vous avez d'autres écrans ?
J'ai un écran dans la chambre de mon frère. Il y a aussi dans ma chambre, mais on n'allume pas à cause des enfants, parce que ma fille, elle dort dans la chambre avec nous.
Alors justement, votre fille, Kathleen, qui a 9 ans, a eu quelques soucis d'addiction aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Kathleen, le 1er janvier cette année, on a rentré dans sa chambre le matin, on a écouté un bruit bizarre. Comme c'était les vacances, on a laissé qu'elle restait un petit peu sur la tablette. Elle a resté 3 heures. Quand mon mari m'a appelé, elle était en train de faire une crise. Ça ressemblait à une crise épileptique. On est parti à l'hôpital. On a fait des examens neurologiques et tout ça. Elle n'était pas épileptique, en fait. C'était la fatigue à cause des écrans. C'est ça que le médecin m'a raconté. Là, j'ai changé tous mes avis sur les écrans et tout ça. Et là, on a arrêté. Dans la maison, on joue, on fait les jeux de société, on change tout, en fait. Voilà.
Donc, en fait, c'est sa tablette. Elle l'a regardée 3 heures de suite pendant la nuit, dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'elle a fait une crise.
Oui, c'est bien ça.
Est-ce qu'avant cet incident, elle consommait beaucoup d'écrans ? Elle avait déjà eu d'autres problèmes ?
On avait les télés. La télé allumée, toujours avec un dessin animé. Et surtout le matin, avant d'aller à l'école, on avait toujours l'habitude d'allumer.
Avant d'aller se coucher ?
Oui, beaucoup. Elle arrivait de l'école à 16h30, écran, tout de suite.
Jusqu'à ?
Bah, 21h, 22h, mais maintenant on a arrêté.
Et vous saviez qu'il fallait faire attention ou pas ?
Je savais pas du tout, parce que j'avais Kevin, il a jamais eu de problème. Kevin est l'aîné, j'ai travaillé jusqu'il avait 7 ans, après j'ai arrêté de travailler. Il était avec une dame qui le gardait, elle a mis beaucoup d'écrans, beaucoup de télé, beaucoup de dessins. Jamais eu de problème avec mon fils, mais avec Kathleen, elle était plus fragile que lui, et on a vu qu'il y avait beaucoup de soucis à cause de ça.
Et quel mot ont employé les médecins aux urgences ? C'était une crise de quoi ?
Elle est fragile par rapport aux lumières. Il a dit qu'il n'y allait pas épileptique, qu'il faut faire attention aux écrans. Elle a dit arrêter. Mais elle a dit même pas 15 minutes par jour. C'est une enfant sensible et là, il faut faire très attention. Alors, il faut que je fasse attention pendant 3 ans sans écran.
Comment vous le vivez et comment elle le vit ?
Au début, c'était dur. Hein. C'était pas facile parce que c'était une habitude. Aujourd'hui, on voit que c'est différent. On parle beaucoup plus qu'avant, on rigole, les enfants ils partagent tout ce qui se passe à l'école, c'est plus facile comme ça. Hein. C'est vrai, on a tout changé, c'était la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie.
Nous sommes en Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois, et nous avons rendez-vous au cabinet d'une pédiatre qui s'appelle Sylvie Dieu-Ozica. Elle alerte ses patients depuis des années sur les dangers des écrans et elle reçoit en consultation de nombreux enfants et adolescents qui sont surexposés aux jeux vidéo, aux tablettes, aux smartphones ou à la télévision.
Bonjour.
Géraldine.
Enchantée, bonjour. On vous a vu ma salle d'attente,
oui.
Où il y a des informations qui nous concernent. Je vous montre juste parce que ça me semble important. Vous avez les 4 temps sans écran, 4 pas pour mieux avancer.
Donc pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir et pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Donc dès la salle d'attente, vous annoncez la couleur.
Si on peut dire, après les gens prennent les infos qu'ils souhaitent, mais dès la salle d'attente, je pense que c'est un sujet aussi important que le sommeil, l'alimentation, la vaccination. On est dedans. Tu viens Zoé ? Allez viens poupée. Qu'est-ce qui lui arrive à Zoé ?
Bah rien,
c'est son examen des 2 ans et demi.
Oui,
ah bah non, mais alors ça va pas lui dire rien.
Ah non, elle a été malade. Là. Ça
bah,
va mieux.
Touche encore.
D'accord. Bon, on va les déshabiller. De toute façon, on est obligé. Je vous laisse faire.
Oui.
Comment vous aviez géré les écrans au début pour Zoé ? Elle est rentrée à la crèche très tôt, je crois.
Oui, dès qu'elle est toute petite.
Est-ce qu'elle regardait avant la crèche votre téléphone ?
Non.
Et maintenant, à 2 ans et demi, est-ce qu'elle regarde votre téléphone ?
Oui.
Elle regarde quoi ?
Oui.
YouTube Kids ?
Voilà.
Combien de temps à peu près par jour ?
Une demi-heure.
Tous les jours ?
Une demi-heure, une heure, ça varie.
Et quand vous l'arrêtez, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle fait des caprices.
Elle pleure ?
Ouais, elle fait des caprices.
Et vous êtes obligé de lui redonner pour qu'elle se calme ou elle s'arrête ?
Ah non, je ne lâche pas l'affaire. Elle s'arrête.
Bien. Faites attention quand même aux applications qu'elle regarde. Est-ce que vous avez choisi certains dessins animés qu'elle va regarder ou...
Non.
Non.
C'est elle.
Voilà. Alors méfiez-vous de ça, c'est important à savoir parce qu'on ne le sait pas. Il y a des publicités cachées, il y a des dessins animés qui vont s'enchaîner les uns après les autres de façon à ce qu'elle regarde quelque chose qu'elle aime. Parce qu'il y a les datas qui sont enregistrées, des algorithmes qui font qu'ils savent ce qu'elle regarde.
Oui, parce que quand on rallume, ça revient sur une des choses qu'elle a regardées.
Vous avez consulté pour votre fille de 2 ans et demi qui a une otite ? Et le pédiatre vous a donné des conseils pour l'utilisation des écrans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, c'est utile pour ne pas laisser tomber dans le vice des écrans, oui.
Votre fille les regarde beaucoup, que ce soit le téléphone, la tablette ou la télé ?
Non, non, la télé, elle regarde que quand on mange le soir. Et le téléphone, c'est juste le matin et le soir un petit peu.
Et c'est quoi comme genre de choses qu'elle regarde ?
Elle navigue et elle a Peppa Pig, tout ça, qui passe en anglais, en espagnol, en asiatique, en russe, en français, elle fait tout.
J'ai cru entendre qu'il y avait l'écran en mangeant.
Oui, on mange tous les trois devant la télé.
On mangeait toujours devant la télé. Et elle est dos à la télé ?
Elle est face à la télé.
Alors, 2 choses à dire qui sont importantes. Vous voyez, je vais vous embêter jusqu'au bout.
Ah, mais...
La première, c'est qu'elle peut voir des images qui ne sont pas forcément adaptées, parce que souvent, on regarde le journal télévisé et on ne peut pas savoir à l'avance.
Non, on ne regarde pas le journal télévisé.
Ah, vous regardez quoi ?
C'est Demain nous appartient. Bon, bah, y a eu des scènes où, oui, effectivement.
Ah, bah voilà. Alors, j'ai dit journal, mais ça peut être une autre émission.
Voilà, il y a eu une scène de feu, maison en feu, et oui, ça y a fait peur. Et je l'ai pris, je suis parti dans la chambre avec, la calmer.
Ouais.
Et lui expliquer que c'était faux, et.
Vous avez bien voilà.
Mon Dieu, Alex, t'es là.
J'ai voulu monter et prévenir les autres. Il y a le plafond qui est tombé dans l'escalier.
Maxime, il est où, Maxime, chérie?
Il est passé par la fenêtre.
Part.
Ouais.
On est parti, Zoé? Ça y est, on se dit au revoir? Allez, sauve-toi, Choupinette.
Merci.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, je suis Sylvie Diozica, je suis pédiatre, je travaille depuis plus de 30 ans, je suis en ville et puis je travaille aussi à l'hôpital Jean Verdier à la PHP. Je suis membre fondatrice avec d'autres de mes collègues d'un collectif qui s'appelle le collectif Cause, collectif sur exposition écran, où d'ailleurs il y a un site internet qui peut intéresser vos auditeurs.
On vous a suivi toute cette journée en consultation. Quel que soit l'âge des enfants, vous dites aux parents, faites attention aux écrans. Qu'est-ce qui vous a amené à passer ce genre de message ?
Bah, deux points essentiels. On a changé de monde totalement. Et depuis qu'il y a la 4G, depuis qu'il y a le Wi-Fi, les gens la présence de l'écran est absolument majeure. L'offre est absolument gigantesque, tant dans le smartphone que les tablettes, que la télévision aussi, où il y a énormément de choses. Et donc, les écrans sont en permanence dans les familles. Donc, ce qui m'a poussée vraiment à faire de la prévention, c'est cette présence permanente. Cette notion aussi très floue qu'ont les parents, que c'est pas un problème, que en fait ça n'interfère probablement pas dans le développement de leur enfant, parce qu'on a même pendant une période dit parfois que ça pouvait peut-être être positif. Et là, je me mets même en colère en disant qu'il n'y a rien de positif dans les écrans, dans l'apprentissage, dans le développement de l'enfant chez les enfants de moins de 6 ans. Et puis le troisième point, on va dire, qui m'a aussi beaucoup influencée pour faire de la prévention, c'est de me retrouver chez des enfants qui avaient des troubles des apprentissages, des retards de langage. Encore une fois, j'ai des enfants de 2 ans qui disent pas un mot. Je rappelle qu'un enfant de 2 ans, il associe quelques mots. Il y en a certains, ils savent juste dire, ils arrivent et ils disent « Maman, Disney ». On comprend tout de suite ce qui se passe, hein, ou maman Roi Lion. Des enfants qui ont une mauvaise dextérité aussi, on n'a pas parlé, la motricité fine des fois est de très mauvaise qualité, parce que si on joue pas avec ses cubes, avec ses crayons, avec ses petites voitures, on joue pas à la dinette, et ben c'est beaucoup moins bien, le jeu de faire semblant, tout ça disparaît. Donc j'ai des enfants dans des vrais troubles du développement, pour moi en tant que pédiatre, et je vois des gros troubles du sommeil très importants, avec des parents qui me disent « mon enfant est fatigué », et on trouve très souvent le problème. On le voit beaucoup chez les adolescents. Des adolescents déprimés, fatigués, voire déscolarisés, qui n'ont plus d'intérêt à aller à l'école. Et en fait, ils passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, sur les écrans, sur les jeux vidéo. Ils voient plus les gens pour de vrai. Il fait plus de sport. Il est plus dans ces échanges qu'il devrait avoir de façon réelle. Je vois des enfants en difficulté à l'école parce que c'est compliqué d'être complètement excité sur différents dessins animés qu'on va avoir au bout de sa main sur une tablette ou sur un portable, et après de savoir se poser sur un cahier avec un crayon. Les maîtresses le disent très bien. Ils arrivent à l'école et ils sont totalement perturbés par rapport au fait que la maîtresse ne bouge pas assez comme un zébulon qui vient de devoir 5 minutes avant. C'est vraiment important. Je vois beaucoup d'enfants avec des troubles de l'humeur, incapables de gérer leurs émotions. Ça, c'est très clair, on utilise malheureusement beaucoup l'écran pour calmer les enfants. Quand on fait un vaccin, quand ils pleurent, quand ils ont eu un souci, on va donner l'écran pour qu'ils se calment. Apprenez-lui à trouver en lui, et c'est comme ça qu'il grandira mieux, la capacité de se calmer. S'il se calme par cet objet-là, il n'arrivera pas à trouver en lui ses capacités à gérer les frustrations à venir. Et Dieu sait qu'on en a des frustrations à venir dans l'avenir, et ça se construit là, maintenant, quand on est tout petit. Donc on doit apprendre à gérer sa colère, pas avec l'écran, ou très peu, et de façon à mieux grandir. Donc faut commencer tôt pour que ça se passe bien. C'est comme bien manger, bien dormir. Il faut parler des écrans très tôt. Je commence dès la première visite, à 15 jours de vie, un mois. Et je répète cela effectivement à toutes mes consultations le plus souvent.
Bonjour.
Rebonjour. Venez, madame. Bonjour, mon petit bonhomme. Oh, je suis contente. Tu me dis bonjour. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as ? T'as 3 ans ? Mais tu es grand alors ! C'est chouette ça ! Alors, on s'était vu, c'était quand ? Au mois de novembre, il n'y a pas très longtemps. Et on avait dit ensemble que c'était bien d'avoir une petite idée du temps que
devant les écrans.
Et vous m'avez répondu à un questionnaire que je donne quand je me rends compte que des fois on y reste un petit peu trop longtemps. Donc c'est surtout la télévision hein, qu'il aime bien.
Oui, parce qu'il n'y a pas de tablette à la maison, il y a les téléphones, c'est son père et moi qui avons le téléphone, mais son père, dès qu'il le voit pareil, il ne lui donne pas. Et moi aussi, je le cache. Depuis qu'on s'est vus, ben, voilà, je le cache, le téléphone, dans le placard, pour pas qu'il le voie.
Ouais.
L'autre fois, il m'a vu avec, il a voulu, il a fait une crise, mais je n'ai pas lâché. Je lui ai dit non, t'as pas le droit, c'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon parce que t'arriveras pas à parler.
C'est super,
ouais.
Je vous félicite, bravo.
Merci.
Donc, maintenant, il est à l'école.
Oui.
Est-ce qu'à l'école, la maîtresse, elle a constaté une différence de comportement?
Oui. Un petit peu, pas totalement ça. Mais au niveau du langage, elle m'a dit qu'il commence à faire des phrases. Au début de l'année, elle n'avait rien du tout, la maîtresse.
Ouais.
On lui dit quelque
zéro.
Chose, il fait comme ça, il hausse les épaules. Alors que maintenant,
il s'exprime.
Il s'exprime, ouais.
Vous, qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous êtes passé qu'à une heure par jour au lieu des 3-4 heures?
Pour lui, il est plus calme.
Oui.
Et que même, il a plus d'attention sur ses jeux. Il joue avec ses jeux, il joue dans sa chambre, il colorie.
Avant, il ne faisait pas ça.
Non.
Là, on l'entend jouer, d'ailleurs.
On l'entend d'ailleurs pas mal jouer avec sa sœur. Hein. Autour, il y a du bruit, mais c'est bon signe. Les enfants font du bruit quand ils vont bien. Et ça, on doit l'accepter. C'est une bonne chose. Et il est en train de jouer à faire semblant. Il me regarde beaucoup mieux aussi qu'il ne me regardait. Avant, le regard était un peu fuyant. Il était un peu dans son monde. Il était un peu parti. Là, il joue. Il joue avec un nounours. Il fait semblant. Et ça, c'est super. C'est déjà très bien.
Je suis contente parce que je sais que tu vas mieux, là, vu ce qu'on m'a dit.
Je te dis merci.
Au revoir monsieur, au revoir. Merci, au revoir madame.
Il y a des pays qui ont pris des mesures radicales, comme je pense que c'est à Taïwan, que les enfants de moins de 2 ans n'ont pas le droit d'être exposés à un écran. En France, qu'en est-il? Il y a un mot sur les carnets de santé, c'est ça?
Alors il y a un mot dans le carnet de santé depuis assez peu de temps où on dit qu'il est déconseillé d'utiliser les écrans chez les enfants de moins de 3 ans. Le problème c'est que personne ne lit les carnets de santé quand même, il faut être dans la réalité du terrain, que ce n'est pas repris la plupart du temps par les soignants, là aussi il faut le dire, sauf certains endroits, les PMI, tout ça, certaines personnes commencent maintenant à être sensibilisées, mais encore insuffisamment. En France, pour le moment, on n'a pas de message très clair. Alors, il y a la commission des 1000 jours qui doit arriver fin janvier, qui nous donnera des messages, j'espère, clairs, parce qu'on a des messages très clairs au Canada, par exemple, ou aux États-Unis. Il y a l'Académie américaine de pédiatrie qui a dit depuis plusieurs années qu'il était fortement déconseillé de mettre son enfant de moins de 2 ans devant un écran. Par contre, regarder les photos de famille, regarder un film vidéo de famille, être sur Skype ou parler avec sa famille, c'est pas le souci. Le souci dont on parle, c'est de regarder des contenus non adaptés aux tout-petits et qui ne vont rien apprendre. L'enfant apprend en regardant son papa, sa maman, qui le regarde, et on doit avoir une disponibilité pleine et entière pour pouvoir rentrer dans un bon développement.
En France, la documentation sur les effets de l'exposition des enfants aux écrans est embryonnaire. Plusieurs études étrangères indiquent que dans les pays occidentaux, un écolier de maternelle peut passer plus d'un millier d'heures par an devant un écran, soit plus que le volume horaire d'une année scolaire. Et on passe à 2400 heures pour un lycéen, soit 2,5 fois plus que la durée scolaire. Le docteur en neurosciences, Michel Desmurget, vient de publier au Seuil « La fabrique du crétin digital », un titre éloquent et inquiétant pour une synthèse des données disponibles. La communauté scientifique ne partage pourtant pas unanimement cette inquiétude paroxystique.
Alors nous venons d'arriver sur le site du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est l'un des plus grands organismes de recherche en France et il est situé ici, sur le plateau de Saclay, au sud de Paris. Nous avons rendez-vous plus spécifiquement à Neurospin, un centre de recherche en neurosciences qui a ouvert en 2007 et qui fait donc partie du CEA.
Pour la suite de ce reportage, Géraldine Allot va rencontrer une autre sommité de la discipline.
Interception.
Désolé de vous avoir fait attendre.
On va parler français avec vous. Bonjour, Géraldine Allot.
You're welcome.
Merci.
Sur France Inter.
Stanislas Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, directeur de Neurospin, et vous êtes aussi directeur du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On a écouté un petit peu plus tôt dans ce reportage des médecins qui font partie du collectif sur exposition écran qui s'inquiètent de voir en consultation des enfants qui ont des retards d'apprentissage, des retards de langage ou des troubles du comportement. Est-ce que ces constats de médecins, vous le constatez vous aussi ? Est-ce que des études viennent l'étayer ?
La première chose que je constate, c'est qu'on mélange, derrière ce terme, les écrans, des choses extrêmement différentes les unes des autres. Il y a des enfants qui sont en risque d'addiction ou simplement de négligence parce que, au lieu de s'en occuper, les parents les laissent jouer pendant des heures sur des tablettes ou les laissent aller surfer sur YouTube ou sur Facebook. Et évidemment, ce ne sont pas des usages pédagogiques. Et puis, c'est surtout un temps considérable perdu sans interagir avec des êtres humains, sans interagir avec les parents. Et là, la recherche est extrêmement claire. Hein. Surtout dans la petite enfance, les enfants ont besoin d'interaction avec d'autres personnes autour d'eux, et ça fait une différence énorme. Les parents qui lisent des histoires à leurs enfants tous les soirs, qui leur parlent de façon sérieuse, enrichissent leur vocabulaire, et on le voit par imagerie cérébrale, parfois quelques années après, sous forme de changement des circuits cérébraux du langage, par exemple. Donc, il peut y avoir une première interprétation de ce terme générique que je n'aime pas du tout, les écrans, qui est en fait une forme de négligence, mais il y en a eu d'autres par le passé. C'est-à-dire, les écrans n'ont aucun rôle spécifique à jouer dans ce domaine. Parents qui laissent leurs enfants tout seuls l'après-midi sans écran font exactement la même erreur dramatique. Hein. Maintenant, je dois donner mon deuxième point, c'est qu'il y a d'excellents logiciels pédagogiques. Et que là, par contre, les écrans ont un effet très positif. Bien sûr, on peut apprendre du vocabulaire. Si on interagit avec un logiciel qui est bien conçu pour donner à l'enfant ce dont il a besoin, eh bien, le logiciel a des effets positifs.
Est-ce que le risque, quand on a une application pour apprendre l'anglais, ce n'est pas de devenir un perroquet et de ne pas forcément comprendre ce qui est dit parce qu'on n'a pas une personne en face pour nous l'expliquer ?
Je pense que ça dépend énormément du logiciel, de la manière dont il est conçu. C'est vrai que les enfants ont besoin d'indices sociaux. Il y a des expériences assez intéressantes qui ont montré que l'enfant n'apprend pas simplement en corrélant ce qu'il entend avec ce qu'il voit. Ça ne suffit pas. Si l'enfant est mis dans une pièce et qu'il y a un haut-parleur qui dit des mots, puis en même temps il y a des objets qui apparaissent, même s'il y a une corrélation de 100% entre les mots et les objets, l'enfant n'apprend pas. Il lui faut plus que ça. Il lui faut ce qu'on appelle l'attention partagée, qui est souvent donnée par une personne. La personne, la maman typiquement, qui oriente son regard, qui oriente son visage, qui dit « Regarde bébé, ça c'est un piano. » Et puis l'enfant va apprendre le terme piano. Donc, si ces indices-là sont absents, effectivement, on peut se demander si l'apprentissage va être efficace. Mais si l'enfant oriente son attention correctement, souvent il y a des personnages dans le logiciel qui lui disent « fais attention », qui clignent des yeux. C'est conçu justement pour utiliser et attirer ce module social du cerveau de l'enfant. Et à ce moment-là, le logiciel fonctionne. C'est une question de recherche empirique aussi. Et ce que montrent les résultats de la recherche, c'est que les enfants qui ont été entraînés avec ces logiciels ont de bons résultats à la sortie.
Est-ce qu'il y a des études scientifiques en France qui mesurent l'impact des écrans et notamment d'une surexposition aux écrans sur le cerveau des enfants ?
Je pense qu'il faudrait mener de ce type d'études, oui, effectivement. Peut-être ça peut être intéressant, mais en tout cas, moi, je peux vous répondre positivement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les écrans, dans un usage raisonné, c'est-à-dire en contrôlant le temps que les enfants passent à jouer aux écrans et en contrôlant le contenu de ce qui est fait, peuvent avoir des effets extrêmement positifs.
Nous sommes à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris. Et nous avons rendez-vous au collège lycée Saint-Louis-Blanche de Castille, qui est un établissement privé sous contrat.
Bah, vous ne m'avez pas attendu, moi je me suis dit.
Bonjour.
Bonjour. Je suis Elsa Job-Pijard, orthophoniste.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Eh bien là, je viens faire de la sensibilisation sur les effets de la surexposition aux écrans chez les jeunes.
Donc vous allez parler devant une classe de
6e.
Donc il y a des visuels là, on voit smartphone, tablette, jeux vidéo, télé, attention à ton attention.
Oui, exactement. Alors ça fait 3 ans que je fais ça dans ce collège, de la sensibilisation donc. Et cette année, j'ai choisi de centrer vraiment le sujet sur l'attention, sur la question de l'attention.
On peut assister à la séance ?
Volontiers.
Bonjour aux élèves.
Bonjour.
Alors moi, je suis orthophoniste. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Depuis ces dernières années, de plus en plus de travail. Moi, mais d'autres collègues orthophonistes aussi, on s'est rendu compte que les enfants qui venaient passaient presque tout leur temps libre sur des activités avec des écrans. Et qu'en plus, le monde autour d'eux, souvent, les adultes eux-mêmes passent énormément de temps sur les écrans. Et que donc, bah, tout ça, ça a un impact. Hein, vous avez déjà entendu parler de ces sujets-là ? Oui ?
Bah, moi, je sais que des fois, ça peut nous faire un peu perdre la mémoire, qu'on peut avoir des problèmes. Comme on reste trop de temps dessus, on commence à passer, on oublie un peu l'école, on oublie tout ce qu'on pourra avoir à la place des écrans.
Oui ?
Quand on est trop exposé aux écrans, quand on passe trop de temps dessus, on perd un peu de sa concentration, parfois en classe.
Vous êtes déjà bien, bien au courant de plein de choses, hein. C'est super. On va prendre encore la parole, voilà, mademoiselle, là, et puis on passera à la suite.
Quand on est trop sur les réseaux sociaux ou sur les écrans, on peut avoir des méchants commentaires et ça peut partir en harcèlement ou en autre chose.
Oui, tout à fait. Donc, que les choses soient claires, moi, je ne souhaite pas retourner vivre dans une grotte, ni au Moyen-Âge, hein. Moi, je ne suis pas pour dire « on va acheter tout ça, là là, quelle horreur, non, pas de smartphone et tout ». Ce n'est pas du tout ça mon propos. De toute façon, on est dans un monde comme ça. On va aussi essayer de réfléchir un petit peu ensemble à ce que ça peut nous apporter ou pas. Hein. C'est-à-dire, c'est un sujet compliqué, vous voyez, il faut au moins une heure et demie pour parler de ça. Parce qu'on ne peut pas juste dire, vous voyez, par exemple, le tabac, il y a des études, etc., c'est jamais bon, on le sait. Les écrans, c'est quand même plus compliqué parce que ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend du temps qu'on en passe, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc on va prendre le temps de parler de tout ça. Ça c'est une petite question aussi. Chacun pour vous-même, vous pouvez compter comme ça combien il y a d'écrans dans la maison. On compte tous les écrans, les smartphones de toute la famille, les tablettes de toute la famille, les écrans de télévision, les ordinateurs. Tu veux nous dire
12 à peu près.
Pour une famille de
4 personnes.
6 écrans pour une famille de 5 personnes.
7 écrans pour une famille de 4 personnes.
10 écrans pour une famille de 4 personnes.
D'accord. Alors, je vais vous donner quand même, aujourd'hui, donc dans votre tranche d'âge, la moyenne. La moyenne, ça veut dire on prend tout le temps de toute l'année, vacances, jours d'école, tous écrans confondus. Les 8-12 ans sont à 4h45 par jour. Ça représente en moyenne 1700 heures par an. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça, ce sont des chiffres qui ont doublé en 10 ans.
Comment tu t'appelles ?
Novak.
Tu as quel âge ?
11 ans.
Tu viens d'assister à cette séance de sensibilisation aux écrans. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Quand on est sur les écrans, on perd plus de temps de notre vie.
Qu'est-ce que tu fais sur les écrans ? Est-ce que tu vas sur YouTube ? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Qu'est-ce que tu fais ?
Ma console, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Mon téléphone, ça dépend. Je peux jouer à des petits jeux vidéo, mais c'est juste quand j'ai pas Internet et pour regarder des vidéos. Mon ordinateur, c'est pour travailler. Ma tablette, je l'utilise plus vraiment.
Après avoir entendu Elsa vous parler justement des écrans et de l'exposition des enfants aux écrans, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de changer un petit peu les choses ou pas ?
J'ai envie un peu de diminuer tous mes écrans. Parce que après, ça fait un peu peur. Parce que quand on pense que les adultes, ils n'avaient pas les écrans, et là, ils sont normales, c'est-à-dire que peut-être nous, vu qu'on a commencé notre vie avec les écrans, ça sera pas la même chose.
Elsa Job-Pijard, vous êtes orthophoniste, cofondatrice de l'association Joue, Pense, Parle et du collectif Surexposition Écran. Qu'est-ce que vous constatez dans votre cabinet, justement, comme effet secondaire des écrans, de la surexposition aux écrans ?
Écoutez, chez les tout-petits, ce ne seraient même pas des effets secondaires, hein, ce seraient des effets primaires, des effets tout court. La nouveauté, ce serait vraiment des enfants petits, sans langage, par exemple à 3 ou 4 ans. Mais à cela s'ajoutent maintenant des troubles de l'interaction. des troubles de la communication. Donc là, nous avons des enfants dont le regard se perd, des enfants qui ne répondent pas à leur prénom, et puis toute la question de l'entrée dans les apprentissages. Souvent, on vient nous consulter parce que les enfants n'apprennent pas à l'école, n'arrivent pas à apprendre à lire, à écrire, à faire les tâches scolaires. Or, comme on a vu ce matin ensemble, pour ça, il faut disposer de toute son attention. Donc on voit beaucoup d'enfants très agités ou au contraire très passifs. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est un rapport au monde réel très perturbé. Par exemple, moi je vois des enfants régulièrement qui essayent d'effacer d'un geste de la main avec leurs doigts en frottant sur la feuille un trait de crayon qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est devenu pour nous une question de santé publique, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Ça fait plus de 15 ans, moi je fais partie d'un regroupement d'orthophonistes. Enfin, notre posture professionnelle fait qu'on s'intéresse depuis très longtemps à ce que fait l'enfant sur son temps libre. Comment il occupe son temps libre, quelles sont les habitudes autour du langage, du jeu, etc. Or, on a vu monter ce temps d'exposition en flèche. Comme je disais tout à l'heure, il est devenu l'activité principale pendant le temps libre. Là, on est dans une société où ce qu'on voit au travers de nos patients, c'est temps libre est en train de devenir temps d'exposition aux écrans. C'est comme ça qu'on le met en pratique, avec tous les troubles qu'on reçoit, en gardant bien sûr présent à l'esprit qu'il y aura toujours une partie de la population qui se développera moins bien et qui a besoin de nous en tant que rééducateurs. Mais là, ce qu'on voit ces dernières années, c'est un phénomène anormal.
Alors, je suis Monsieur Matelin-Rivoire, je suis chef d'établissement du Collège Saint-Louis.
Pourquoi vous avez décidé de faire venir Elsa Job-Pijard pour parler des écrans devant cette classe de 6e?
La question des écrans est aujourd'hui une question qui est devenue majeure pour nos élèves du collège. C'est également le cas pour les petits du primaire, puisque nous avons des élèves depuis l'âge de 3 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a eu l'apparition des smartphones vraiment au cœur de l'établissement. Ça entraînait tout un tas de sujets par rapport à la question de l'attention, c'est ce qui a été évoqué par Mme Job-Pijard, et puis ça entraînait aussi des problèmes concernant la partie éducative. C'est-à-dire que dans beaucoup d'écoles en France, vous avez des jeunes qui voient pour la première fois des images pornographiques ou des images violentes à l'école primaire ou au collège. L'année dernière, on a eu un problème avec des jeunes qui ont été marqué par le visionnage d'images en direct des attentats de Christchurch, des élèves de 4e qui nous ont dit, voilà, sur un groupe d'une quinzaine, il y en avait 5 ou 6 qui avaient vu les images finalement de l'attentat, sans aucun filtre. Et au début, ils n'avaient pas compris finalement que ce n'était pas des images de jeux vidéo, mais que c'était bien la réalité.
Alors justement ici, vous avez fait un choix plutôt radical, c'est depuis la rentrée dernière, la rentrée 2018, vous avez distribué des téléphones portables basiques à tous les élèves de 6e à la 3e, c'est bien ça?
C'est ça, ce sont des téléphones qui ne font pas d'appareil photo, pas de vidéo, qui ne peuvent pas aller sur internet, qui ne peuvent finalement que faire la base, c'est-à-dire téléphoner et envoyer des SMS. Et il y a une interdiction formelle d'avoir un autre téléphone sur soi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir ce téléphone et par exemple un smartphone, c'est strictement interdit. L'avantage qu'on a eu depuis maintenant 2 ans, c'est qu'on a beaucoup moins de soucis en fait de prise de photos, de vidéos illicites, on va dire, sur la cour de récréation qui sont postées sur les réseaux sociaux et qui finalement peuvent entraîner du harcèlement pour certains jeunes. C'était d'abord notre objectif numéro 1 et de ce côté-là, c'est pleinement rempli.
Interception. Bonjour. Sur France Inter.
On le voit, les enseignants sont soumis à des injonctions contradictoires. Protéger les enfants tout en les préparant à une société de plus en plus numérisée. Quant aux médecins qui évoquent un problème de santé publique, ils impliquent donc forcément les politiques publiques. Et donc, les élus qui en ont la charge. On retrouve Géraldine Allot et Fabien Gosset à Angers, une ville qui a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.
Allez, au troisième.
Caroline Fell, je suis adjointe au maire en charge de l'enfance et de la famille à Angers.
Nous sommes dans votre bureau en mairie d'Angers et sur votre table, il y a une grosse pile de dépliants avec écrit
0-3 ans, 0 écran. C'est une campagne, d'une part avec des affiches, un peu partout sur les panneaux de co dans la ville d'Angers, et qui est accompagnée de ce petit document complémentaire, parce que au-delà de l'affiche qui passe un message qui est un peu abrupt, dire voilà, pas du tout d'écran avant 3 ans, on veut expliquer aux parents pourquoi on leur envoie un peu ce signal d'alarme en disant les écrans, ça peut être formidable dans plein de circonstances, mais avant 3 ans, si votre enfant en regarde trop, il peut y avoir des risques, et on voulait les informer là-dessus.
Le visuel que vous avez choisi, c'est un téléphone portable, le fond est noir, il y a écrit en gros, en rouge, de 0 à 3 ans, 0 écran. Ça fait un petit peu penser sur les bouteilles de vin quand il y a écrit pendant la grossesse 0 verre. C'est un peu cette tonalité-là que vous vouliez.
C'est absolument ce qu'on voulait parce que on considère que c'est une alerte sanitaire qu'on doit faire auprès des parents. Et cette idée du 0-3 ans, 0 écran, c'est aussi de se dire, voilà, c'est une espèce d'objectif idéal. Donc même si on ne l'atteint pas, ce n'est pas très grave. Mais si on commence à dire, oui, alors il en faut juste un peu, le un peu va être différent pour chacun. Il y a des familles où 2 heures par jour, ils vont vous dire, ce n'est pas beaucoup. Et pour un tout petit, 2 heures par jour en écran, c'est considérable. Et là, ça commence à avoir des conséquences sur son développement.
Alors est-ce que du coup, vous bannissez l'usage des tablettes dans les écoles à Angers ?
Alors, on ne bannit pas puisqu'elles sont inscrites dans les programmes de l'éducation nationale, mais on a justement, dans cette réflexion globale, puisqu'Angers est territoire intelligent, Angers, on essaye d'être une ville justement très ouverte sur les progrès technologiques quand ils sont bénéfiques. Mais on considère qu'on a aussi une responsabilité sociale, entre guillemets, et que le volet qui vient en réponse à ça, c'est de dire comment on réfléchit à un bon usage, au meilleur usage possible. Et dans les écoles, on va aller voir dans une école comment ça se passe pour qu'effectivement les enfants, ils en aient les bénéfices et sans les inconvénients. À l'école Marcel Pagnol, un quartier qui s'appelle La Roseraie. Grand quartier d'Angers dans lequel on a plus de 79 nationalités différentes. Donc la question de la langue et de l'acquisition de la langue, c'est un vrai souci pour les familles. D'où l'importance de les accompagner.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant.
Je m'appelle Laurent Vieux, je suis directeur d'école sur Angers.
Et vous êtes également responsable du numérique à Angers Centre pour l'éducation nationale.
Et effectivement, j'interviens auprès des écoles de la ville d'Angers pour développer le numérique et les usages, mais aussi accompagner les enseignants.
Ici, dans cette école, les tablettes sont arrivées dès 2012. Aujourd'hui, quels en sont les usages ?
En fait, les tablettes sont essentiellement utilisées pour créer des contenus, du texte, annoter des photos, créer des histoires. On utilise les tablettes comme on utilise un manuel, comme on utilise un cahier, comme on utilise le tableau. La tablette, c'est un outil qui vient en plus. Aucun élève ne passe toute la journée sur une tablette. Parfois, il peut y avoir une tablette pour 5 élèves, puisque ça va être l'outil sur lequel ils vont écrire leurs documents ou mettre en commun leur production. Ça peut être en anglais pour écouter des contenus avec un accent correct. Ça peut être, les usages sont vraiment multiples. Chaque classe l'utilise. Alors les CP, par exemple, pour refaire le geste de graphie, pour associer des syllabes, peuvent utiliser la tablette. Mais l'idée que chaque enfant serait derrière une tablette avec un enseignant qui distribuerait le travail sans bouger de son tableau, ça c'est une image qui n'a jamais existé et qui, je pense, n'existera jamais.
En quoi les tablettes peuvent aider à l'apprentissage, notamment de la lecture ou de la graphie ?
Alors, ça permet de refaire le geste, de s'accorder sur, par exemple, une graphie lorsqu'elle est juste et de la garder en mémoire. La tablette aussi permet de garder en mémoire les progrès de l'élève. Donc la tablette, elle est là aussi pour garder trace et puis après pour avoir une séance de langage, puisque ce qui est sur la tablette peut être projeté. Et donc on va discuter de ce qui est projeté, qui a été créé sur la tablette, que ce soit en orthographe ou que ce soit en mathématiques. Et donc on peut discuter de ce travail plus facilement qu'on pourrait le faire avec un papier ou un crayon ou un tableau noir par exemple, puisque là on garde toujours en mémoire une copie de ce qui est intéressant.
Globalement, le monde enseignant est d'accord pour dire que les enfants ont une graphie de moins bonne qualité par rapport à avant. Les lettres sont plus grosses, moins régulières. Est-ce que du coup le temps passé devant les écrans ne se fait pas au détriment de moments passés à écrire avec un crayon sur une feuille de papier ?
On n'écrit pas au sens script, sur la tablette. C'est rare. On va s'entraîner pour un geste comme on s'entraîne en l'air, comme en refaisant le geste du A, par exemple, comme on s'entraîne dans du sable. On va pas écrire sur la tablette pour écrire du texte. On va produire un texte d'une autre façon. Donc effectivement, ça va peut-être pas s'adresser au départ à des enfants qui débutent dans l'écriture. Mais aujourd'hui, l'ensemble du monde professionnel, l'ensemble du monde des enseignants produisent l'essentiel de leurs textes ou leurs documents sur du matériel informatique. Donc il faut aussi apprendre à nos élèves à travailler avec cet outil-là, puisque personne ne peut savoir ce qui sera au niveau du numérique dans 10 ans, dans 20 ans. L'arrivée de la tablette, c'est 2012, vous l'avez dit. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau dans le monde de l'enseignement et dans le monde en général. Donc personne ne pouvait anticiper cette diffusion aussi rapide. Donc il est bien que l'école, pour une fois, se saisisse d'un outil technique pour permettre aux élèves, à tous les élèves, d'être confrontés à ce nouvel outil. Si l'école ne s'en saisit pas, on aura du mal quand même à former les citoyens de demain, je pense. Après, quant à la qualité de la graphie, c'est un sujet, effectivement. Mais bon, je pense que c'est pas la tablette, c'est pas le numérique qui fait diminuer la graphie, ni même la qualité de l'orthographe, puisqu'on oppose l'orthographe SMS à l'orthographe de l'école. Mais les enfants, comme les adultes d'ailleurs, ont des registres d'orthographe. C'est ce vers quoi on doit tendre, c'est savoir se déplacer dans différents registres d'écriture, dans différents registres d'orthographe ou dans différents registres de langage, en fonction des personnes à qui on s'adresse et ce qu'on veut faire passer comme information. Et je pense que c'est à l'école aussi de transmettre ces valeurs. Donc voilà, l'écran, quand il est seul et de façon passive, oui, il y a un danger, mais lorsqu'il est toujours accompagné, et c'est le cas de l'école, c'est plutôt bénéfique.
Alors, pour tenter de limiter au maximum l'usage des écrans, des parents se sont constitués en association. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, en face du parc André Citroën. Et c'est l'association Macabane, avec 9 parents bénévoles, qui organise des séances de jeux en plein air.
Bonjour, Véronique de Maludo, enchantée.
Enchantée. Alors, qu'est-ce que vous faites là?
Alors là, nous sommes en train d'ouvrir Maludo. C'est une ludothèque. Donc on peut venir jouer sur place, c'est-à-dire que c'est pas une ludothèque où on emprunte des jeux pour jouer chez soi, on joue sur place. Donc on emprunte un jeu, on joue en famille, avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas. L'idée c'est de créer du lien social dans ce quartier, plutôt que de rester derrière des écrans, faire des jeux vidéo, regarder des séries toute l'après-midi ou toute la soirée. C'est de redonner le goût du jeu et de la rencontre, sortir de chez soi, et faire autre chose, effectivement, que d'être derrière tout seul dans sa réalité virtuelle, derrière des écrans.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Comment vous appelez?
Elvan.
Vos enfants ont quel âge?
5 ans et demi et 7 ans et demi.
Et alors, pourquoi vous les amenez ici?
Parce qu'ils m'ont montré le... J'avais fait connaissance avec une dame la semaine dernière qui m'a dit qu'il y avait cette aire de jeu super sympa.
C'est une alternative aux écrans?
Pas mal comme question. Hein, aux tablettes... Là, c'est très tablette, les jeux dans les tablettes, les jeux gratuits. Donc forcément, à chaque fois, il y a des publicités. Ah, je veux ce jeu. Quand il pleut, bon, allez, un peu de tablette, mais c'est dur de l'arracher, quoi. Hein. On habite dans un 2 pièces, donc forcément, à 4, c'est pas évident. Et quand il saute sur les canapés et tout, et que la voisine, elle en a marre, on se dit, allez, tu te calmes, la tablette. C'est un cercle vicieux. Donc, pour le calmer, jusqu'au dîner, allez, tu regardes un peu, on mange et après, dodo. Mais les jouets, c'est mis de côté un peu avec ces jeux vidéo. Hein. Mais c'est la faute des parents, vous allez me dire. C'est à nous de mettre des stops. Hein. Il n'y a pas autre chose à dire, hein. C'est les parents. Ethan, Élise, viens répondre. La dame, elle veut te poser une question avec monsieur. Reste à côté d'Ethan.
Ça vous plaît, les enfants, de jouer comme ça en plein air?
Oui, ça me plaît beaucoup.
Pourquoi ça vous plaît?
Bah, parce que j'aime bien les cerceaux, comment c'est installé et tout.
Et toi, Ethan?
J'aime bien les parcs. Oui.
Et alors entre ça, une après-midi en plein air, même s'il fait froid, et une après-midi devant une tablette, vous préférez quoi?
Ici.
Moi aussi.
Pourquoi?
Bah parce qu'au lieu de rester sur la tablette, après tu vas devenir fou. Et du coup, bah c'est mieux de t'amuser avec des copains.
Allez, il est un peu de travers, hein.
Ouais.
Donc là, sur notre gauche, les enfants sont en train de construire un château en Lego géant.
Voilà, là, ça fait une vraie fenêtre, là.
Oui, comme ça, on pourra voir partout.
Il a beau faire 0 degré, il y a beaucoup de monde, hein.
Ouais, ça va, franchement, oui. Les gens sont contents d'avoir ça, hein.
Il y a beaucoup de parents qui nous disent que ça leur rend service, ça leur permet d'éloigner les enfants des écrans.
Ah oui, ça, c'est certain, oui. Étant moi-même maman d'une petite de 2 ans et demi, c'est vrai que là, ça fait donc 2 ans et demi que je prends un peu plus conscience de ça. Nous, en tant qu'adultes, on passe notre journée sur les écrans. Quand j'ai ma fille de 2 ans qui me dit « Non, maman, le téléphone, pose-le !» On est à table ou on est dans la maison, dans le salon. Elle me parle et je n'écoute pas parce que je suis sur mon téléphone. C'est sûr que ça fait réfléchir. On se dit « Ah, oui, effectivement, t'as raison. » Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup conscient de ça. Il y a plein d'études qui ont montré que c'est pas bon. À la PMI, ou dès que vous êtes parent, jeune parent, on vous dit « Les écrans, c'est pas avant 3 ans. » Et même après, c'est avec parcimonie. Donc voilà, je pense que les parents commencent à se rendre compte de ça. Et j'espère qu'effectivement, il y a eu un bel effet d'écran. Et maintenant, on va revenir sur quelque chose de un peu plus naturel, un retour aux sources des jeux comme on faisait, comme moi. Moi qui ai 32 ans, comme je faisais quand j'avais 5 ans, quoi. Il n'y avait pas d'écran. Allez, doucement quand même là, hein. Je suis pas sûre que la girafe, elle accepte d'être tapée contre le château fort. Hein.
Ces écrans qui capturent nos enfants, c'était un reportage de Géraldine Allot, déjà diffusé le 12 janvier. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Sébastien Royer. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Dimanche prochain, rediffusion d'un reportage de Mathieu Montoloni sur les collapsologues, ces citoyens qui ont théorisé la fin de notre système économique et social, et se préparent à vivre dans un monde différent. À la semaine prochaine.